2009. Vraiment, nous avons le plaisir de recevoir Madame Juliette Marcelli-Lopez, qui est à la tête de cette institution. Par décret, nommé par décret présidentiel numéro 2017-187, en date du 1er février 2017. Bonjour, Madame Lopez.
Bonjour, monsieur.
Bien.
Tout bien.
Madame Lopez, vous êtes nommée par décret présidentiel. Pourtant, vous êtes autorité administrative indépendante.
Oui. Bonjour, chers auditeurs. Effectivement, j'ai été nommée. Au mois de février, pour un mandat de 5 ans, pour l'Observatoire national. Je suis une institution une autorité administrative indépendante, selon la loi de 2009, et j'ai pour mission donc nommée pour 5 ans, pour un mandat de 5 ans non renouvelable et irrévocable. Je ne peux pas être. Je ne peux peut-être pas si j'ai un empêchement ou si j'ai une suite judiciaire.
Mais vous êtes indépendante.
Oui. Selon la loi, je suis indépendante. Cela ne gâche pas.
Alors, Madame Lopez, qu'est-ce qu'on peut savoir sur les missions de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté?
Alors, nous avons plusieurs missions. Enfin, dans la mission que nous avons plusieurs parties. Nous avons la partie qui est quand même assez essentielle, c'est les visites des prisons, les visites inopinées ou organisées des prisons, pour toucher les conditions de vie des détenus, des personnes privées de liberté. Pour voir dans quelle mesure on ne viole pas leurs droits fondamentaux, et puis si leur dignité humaine est respectée. Donc, cela, c'est notre rôle essentiel. Nous allons dans toutes les prisons du Sénégal pour nous en rendre compte. Et nous avons aussi une autre mission, c'est celle de sensibiliser et de former les agents en exécution des lois pour mieux les conscientiser sur la torture. Savoir que la torture n'est plus aujourd'hui actualité, elle est révolue. Et nous essayons de les conscientiser sur le danger de la torture et pour eux et pour les pratiques d'autres temps. Ensuite, nous avons aussi des ateliers thématiques que nous développons. Et ça, c'est les derniers jours. Le jeudi et le samedi, nous avons des ateliers. Le premier atelier se portera sur la responsabilité pénale de l'agent judiciaire des lois. Ensuite, le deuxième, ce sera la responsabilité administrative et disciplinaire. Et le troisième atelier portera sur les conséquences psychologiques de la torture. Donc, oui, de la torture sur la personne.
Oui.
C'est international.
Comment on a été aidé à mettre sur pied cette institution? Si vous devez nous rappeler l'histoire de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté
au Sénégal, c'est là. L'État du Sénégal a signé la Convention des Nations Unies contre la torture, les traitements cruels, inhumains et dégradants. Et par un protocole facultatif de 2002, ratifié en 2006 par le Sénégal, chaque État partie qui est signataire de cette convention doit installer dans son pays un mécanisme national de prévention contre la torture, les traitements cruels ou inhumains.
On va attaquer notre avant-première, avant le journal. Comment l'Observatoire est organisé? On parle d'une équipe pluridisciplinaire.
Exactement. L'Observatoire est une institution et elle recrute. L'institution recrute son équipe, par rapport au mandat de 5 ans avec lequel il travaille. Et dans son équipe, il y a plusieurs expertises. de personnes de d'horizons divers pour l'aider à justement à bien accomplir ses objectifs. Nous avons dans cette équipe nous avons des magistrats, nous avons des journalistes comme vous voyez là Monsieur Mouni et des magistrats comme Monsieur Duncan, mon secrétaire général. Nous avons des juristes, Madame Bessama qui est notre chargée de programme. Nous avons des anciens commissaires, des commissaires à la retraite, des commissaires visionnaires, des policiers à la retraite, des colonels de gendarmerie à la retraite, inspecteurs de l'administration financière à la retraite, médecins psychiatres, vous voyez, un peu partout, avocats, un membre du comité de veille ou de la société civile même. Ils ont des gens qui peuvent nous apporter leur expertise dans notre travail.
C'est une équipe vraiment qui est là.
Qui est là.
Exactement.
On les appelle des observateurs délégués.
Même les psychologues,
oui. Même les psychologues. On les appelle des observateurs délégués parce que, bon, ils travaillent avec l'observateur national qui délègue ses pouvoirs, qui leur délègue ses pouvoirs pour les travailler en commun. Avec lui.
Alors, madame, la question fondamentale, c'est vraiment, selon vous, quels sont les pouvoirs qui peuvent être les détenus qui sont en train de faire la loi? Parce que c'est le principal place pour conserver.
Ils ont tous leurs droits. Le seul droit qu'ils n'ont plus, c'est de les venir. Ils sont privés de leur liberté, mais sinon, ils ont tous leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire que quand on est mis en prison, quand on est envoyé en prison, ils ne peuvent pas. Bien sûr, ils n'ont plus de liberté, mais leur droit reste intact. Leur droit d'être humain reste intact.
On n'a pas les gardes dans les conditions humaines.
Surtout pas. Ni torture, ni traitement indigne, cruel, dégradant. C'est-à-dire qu'ils doivent bénéficier de tout. D'un certain confort, qui est déterminé d'ailleurs par des normes internationales.
Parce que c'est un métier assez fermé. Il y en a qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Alors, comme question, quels sont les lieux où vous êtes prêts à visiter?
Quand on va en prison?
Vous-même.
Après ça, les lieux.
Oui, mais donc vous êtes arrivé.
Les lieux où il y a des personnes privées de liberté, vous voulez dire. C'est tous les lieux où une personne est privée de sa liberté. Vous avez la prison, vous avez les commissariats de police, vous avez la brigade de gendarmerie, vous avez même les cadres des tribunaux, vous avez même l'hôpital psychiatrique où certaines personnes sont gardées sans leur consentement. Bien sûr. Nous avons autorisé les validités des prisons, les brigades de gendarmerie et les commissariats de police pour voir dans quelles conditions ces personnes-là sont gardées à vue.
Je vous rappelle que nous sommes avec Mme Violette Marcelin-Diaye-Lopez, qui est à la tête de l'Observatoire national des lieux de prévention de liberté. Madame, nous en étions qu'on peut avancer, par exemple, les endroits où vous êtes autorisés à visiter. Sans transition, nous savons que les ONG, également, vous êtes en prison. Mais quelle est la différence entre les ONG et les visiteurs de la prison?
C'est une question très intéressante. Il ne faut pas confondre les ONG qui ont leur rôle à jouer et nous, observateurs nationaux des lieux de privation de liberté. Les ONG peuvent visiter les prisons, mais pas comme nous les faisons. Nous ne faisons pas des visites de prison, nous faisons des monitoring de prison. C'est-à-dire que nous entrons dans les prisons et nous regardons tout. Nous visiterons tous les endroits de la prison. Que ce soit les cellules, les bureaux, les cuisines, les magasins où on entrepose les vivres, les denrées, les toilettes, les cellules disciplinaires. En fait, tous les coins et recoins de la prison, nous les nous évitons et nous en tirons des conséquences.
La fermerie. Oui, elle va être en ligne, justement. Alors, oui. Oui.
Mais madame, aujourd'hui nous sommes à Luga, et demain, mercredi, nous allons visiter la prison de Luga.
Madame,
je vais
parler de plus de votre question.
Nous sommes à Luga, nous allons dans toutes les régions.
Nous
allons tourner. Dans toutes les régions. Nous avons fait, je vous tiens dans ces Kers, Mbour, Kaolack, Vigenshor, Matam, Tambacounda, Kédoubou, Catherine, et là aujourd'hui nous sommes à Luga. Et nous avons d'autres lieux encore, d'autres régions que nous allons visiter encore. Nous avons aussi des points focaux. Nous avons installé dans ces régions-là, dans cette région, 5 points focaux dans 5 régions illégales. Qui peut nous avertir s'il y a.
Encore un peu plus de rallye. Oui, bonsoir, monsieur.
De la situation. Comment nous pouvons apporter une solution? Nous sommes en train d'envisager justement cette solution-là, de désengorger les prisons. Et nous avons fait des ateliers thématiques sur les peines alternatives à l'incarcération et sur les aménagements de peines pour voir dans quelle mesure on et ça, on a travaillé avec les magistrats. On a fait un atelier à Kaolack, à Saint-Louis, à Vigenshor, et là on va tenir bientôt un grand atelier à Dakar pour finaliser ce problème, pour trouver une solution à ce problème. Donc c'est pour essayer de diminuer les mandats de dépôt, afin qu'on n'envoie pas trop souvent les gens pour exposer des mineurs en prison. Trouver des peines alternatives. Il en existe. Mais il y a quand même quelques aménagements à faire pour que ce soit vraiment concret. Et donc, nous sommes en train d'étudier la question.
C'est une question qui revient souvent lorsqu'on en parle à la radio. Vous êtes magistrat. Moi, je suis en Sécurité nationale. Il y a beaucoup de magistrats qui ont été dénoncés de la police. Je connais un spécial de Colombo, le milieu carcéral. Parce que pour qu'on ait des vies, on vous envoie en plus, on vous oublie parfois même en prison pour un auditeur qui doit le sentir. Alors, madame, si on veut faire des cas des lieux, parce que c'est la question que l'auditeur nous a parce que balancé, si on veut faire des cas des lieux, est-ce que les prisons au Sénégal sont bonnes ou mauvaises?
Si on les compare aux prisons qui existent ailleurs en Afrique, on peut dire que les prisons sont bonnes
au
Sénégal. Parce que quand même au Sénégal, on se préoccupe beaucoup des droits de l'homme. On sent que l'État fait un gros effort pour être aux normes. Bon, c'est sûr que les moyens ne suivent pas toujours, mais on sent qu'ils font des efforts. Hein, ne serait-ce que pour la nourriture, qui est passée de 700 à 1000 francs, 1020 francs, les soins médicaux, ils sont pris en charge, quand même. Hein, ils sont pris en charge. Le seul problème qui demeure en ce moment, même les tortures ont beaucoup diminué, surtout avec notre arrivée. Hein, on entend plus. C'est des petits phénomènes. Hein.
Avec
l'opérateur,
oui.
En tout cas, beaucoup de choses ont changé et on le sent, parce qu'on sait qu'on peut faire des visites inopinées, hein? Alors donc sans ça compte dans la réaction C'est bon. Qu'est-ce que vous m'avez demandé à
l'autre?
Alors, les conditions de détention. Oui. Alors, c'est surtout ça, les problèmes. C'est surtout des problèmes de détention qui posent problème. Parce qu'il y a trop de monde, c'est surpeuplé, il n'y a pas assez de place dans les cellules. Vous savez, les cellules sont. C'est des anciennes, souvent c'est des anciennes écuries du temps de la coloniale. Je suis là pour ça. Lorsque nous faisons nos visites, nous faisons des constats que nous reportons dans, que nous mettons dans nos rapports. Et dans ces rapports, nous relevons tout ce qui ne va pas. Nous adressons ce rapport à l'administration pénitentiaire, afin que l'administration pénitentiaire aussi donne ses observations sur ce que nous avons constaté. Ensuite, une fois que nous recevons ce bon rapport, nous y intégrons les observations de l'administration pénitentiaire, nous faisons un rapport définitif, ce qu'on appelle un rapport de visite, et nous le transmettons au ministre concerné. Et c'est là que les décisions se prennent, parce que nous faisons des avis et des recommandations dans ces rapports pour demander à ce qu'on fasse ceci, cela, qu'on donne des idées. C'est un dialogue que l'on instaure avec l'État afin qu'on trouve des solutions pour améliorer ces prisons. Et ne vous en faites pas, tout ça est contrôlé, parce que c'est quand même un organisme qui, dont la base est le protocole facultatif de la Convention contre la torture, des Nations Unies contre la torture, donc c'est contrôlé même au niveau international, tout ça. Et donc nous précisons des rapports qui peuvent être rendus publics. Donc, le fait que ces rapports puissent être rendus publics, ça peut influencer, ça peut booster l'État à faire plus d'efforts, disons.
Est-ce que vous pouvez demander de le faire quand vous avez la vie de faire une vie par exemple, supposons que vous avez découvert quelque chose qui ne vous plaît pas, alors, à qui devez-vous plaire?
Si nous voyons quelque chose, on met dans ce rapport-là, qu'on appelle pré-rapport, que l'on écrit pré-rapport et envoyé au directeur de l'administration pénitentiaire qui répond. Il a un mois pour y répondre. Il répond et donne ses observations. Et nous prenons ces observations, nous l'incluons dans un autre rapport de visite qui est définitif, et c'est ce rapport que nous envoyons au ministre. Avec des avis et recommandations.
Alors, les situations qui vous écoutent en ce moment et que les parents en prison, si vous voulez vraiment vous rencontrer, comment elles doivent faire?
Vous rencontrer pour les problèmes bien déterminés.
Ceux qui ont des problèmes.
Parce que nous ne sommes là que pour les personnes qui vivent de liberté et qui auront quelques soucis avec la. Avec la leur détention.
Par exemple, j'ai un parent qui est en prison, mais qui est torturé au niveau de la prison et je voudrais porter plainte, par exemple.
Vous nous saisissez, vous pouvez nous appeler par téléphone, mais après vous allez concrétiser ce qu'appelle par un document. c'est normal pour la personnalité. Et nous, nous chargeons de la question.
Voilà, on a un auditeur en ligne qui peut voir à nous. Alors, bonsoir. L'appel n'arrive pas. Alors, madame, dès que vous avez fait une semaine à Louga, vous connaissez la ville auparavant et qu'est-ce que vous avez l'impression?
Moi, je ne connaissais pas Louga, mais j'ai beaucoup entendu parler de Louga à l'époque où le président était là, je pouvais. Et bon, j'ai des amis aussi qui sont ici. C'est une grande ville, hein. Louga, c'est une grande ville. Bon, je vois qu'il y avait très belle maison et tout, mais c'est un peu quand même. Non, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde.
Oui. Oui, pour la question, madame, de madame. Voilà.
On le fait dans nos recommandations. Et même là, pour le fait du café, le ministre a attiré l'attention des gens là-dessus. Il en a parlé dans son discours au niveau de. Le ministre de la Justice, au niveau de l'Université civile, on a été invité là-bas pour une journée. Et il en a parlé.
Alors,
vous avez
prévu
un CAB également de la matinée. Un CAB. Oui, avec le gouverneur.
Il ne va pas de quoi un CAB.
Le gouverneur vient avec son staff en général, hein, avec son équipe, et nous invitons en même temps toutes les populations, la presse, les autorités administratives, les élus locaux, les autorités judiciaires, enfin, tout le monde est invité. Assister à ce CRD. Et bon, de pour ce CRD, justement, nous, observateurs, nous poursuivons de notre façon pour faire connaître, justement, à tout ce qu'est l'observateur, ce qu'il fait, ses missions, ses prérogatives, comment il fonctionne, etc.
Alors, avant d'aller vers la fin, on peut la partir de l'autre. Si vous êtes dans votre programme, vous avez prévu la journée de jury. Si vous êtes à Louga, vous avez prévu l'information des agents d'élection.
Oui. Nous allons parler de la torture, justement, et des mauvais traitements, des traitements des agents. Nous allons parler de la torture pour montrer, d'abord, définir la torture, leur dire que la torture aujourd'hui est gravement et sévèrement punie, sanctionnée, et c'est 5 à 10 ans, hein, si on, et en plus on n'accepte aucune excuse pour un acte de torture, même si l'agent a respecté la décision de son supérieur, on n'en tient pas compte. Il est sanctionné quand même. Nous ne sanctionnons pas. Nous besoin de les sensibiliser, de les conscientiser sur le danger de la torture. Il faut qu'ils arrêtent ça parce que c'est dangereux et pour eux et pour l'État qui sert. parce que l'État maintenant est, a signé une convention contre la torture. Donc, on ne peut pas non plus mettre l'État dans l'embarras. Et eux-mêmes, ils sont, si on les attrape, ils sont sévèrement sanctionnés. Ils peuvent perdre leur, leur place, ils peuvent être dégradés, ils peuvent aussi faire la prison. Sans faire des fois, c'est très sévère.
On a assez de l'idée que
nous avons les points focaux, nous avons le comité de veille, parce que l'observateur national va aussi instituer un comité de veille. Et ce comité de veille est composé de membres les plus représentatifs de la société civile, et ces gens-là aussi, ils nous alertent. Donc, quand ils entendent parler de torture ou de maltraitance, ils nous alertent. Et les points focaux aussi. une solution définitive à ce problème de surpopulation par le biais de peines alternatives et de l'aménagement des peines.
Parler de l'Union européenne qui nous a accompagnés dans cette tournée et qui nous appuie sur cette tournée de 18 mois. Et c'est grâce à eux que nous avons pu faire tout cela, faire tout le tour du Sénégal pour pouvoir nous faire connaître, pour pouvoir sensibiliser les gens sur ce qu'est le danger de la torture, etc. Former les agents d'exécution de loi, etc. Et nous les remercions de tout cœur parce que sans eux, nous n'aurions pas pu faire ce bon travail que nous avons.
Thank you.